est probable qu'à l'issue de cette émission, vous fredonniez un air de flûte de Pan qui fait... Je vous épargne une interprétation, d'autant que c'est impossible sur le générique de cette émission. En tout cas, cet air est celui du grand blond avec une chaussure noire composé par Vladimir Cosma. Vladimir, pas Joseph. Le Cosma du jour n'a donc pas écrit la musique des Feuilles mortes, mais celle de plus de 200 films. Aujourd'hui, Pop & Co est Pop & Cosma, soit l'histoire d'un émigré roumain qui a inscrit des mélodies dans la mémoire collective française depuis 1968. Cosma a vécu un âge d'or pour les compositeurs de musique de film. Une époque où les cinéastes utilisaient des partitions totalement inédites, quand aujourd'hui la majorité recourt à des morceaux, voire à des tubes, déjà existants. Vladimir Cosma a donc inventé la bande originale de beaucoup de nos dimanches soirs, avec Le Grand Blond, Un éléphant ça trompe énormément, ou Rabbi Jacob, en mélangeant classique, jazz, folklore et pop. Espagne, rock et Normandie, ça, ce sera le programme un peu avant midi, puisqu'on suivra les pistes de S.L. Amor, chanson qui figure sur le dernier album du groupe Cannibal. S.L. Amor, ça veut dire « c'est l'amour », donc bonjour, bienvenue, c'est Pop & Co.
France Inter, Rebecca Manzoni. Pop & Co.
Bonjour madame, installez-vous. Je vais prévenir mon psychosoin de votre arrivée.
Merci.
J'étais déjà venue chez lui pour parler de ceci. Les musiques que Vladimir Cosma a composées pour La Boum. C'était à l'occasion d'un épisode de Pop & Co dédié au slow. En 1980, Vladimir Cosma a donc signé un tube pop alors qu'il venait d'autres galaxies. La galaxie de la musique classique d'abord, qu'il a étudié comme violoniste au Conservatoire National de Bucarest. Il vient de la galaxie du jazz aussi, qu'il a découverte grâce à son père. Écouter du jazz dans la Roumanie communiste des années 50, c'était possible. Vladimir Cosma m'a expliqué qu'il fallait juste que le morceau porte un titre du genre « L'ouvrière sur le tracteur » et ça passait. Mais, à l'automne 1956, lorsque le peuple hongrois se révolte contre le régime communiste, les autorités roumaines s'inquiètent. Et tous les étudiants du conservatoire de Bucarest sont convoqués face aux membres du comité central installé sur scène. Un camarade prend la parole et déclare:
il y a quelqu'un de très doué, formidable, etc., mais il est complètement influencé par l'art occidental, il aime le jazz, il aime la musique française, Ravel, Debussy, etc., et il me nomme. Donc après qu'ils m'ont critiqué, j'ai dû venir sur la scène pour faire mon autocritique. J'ai dit, vous savez, la musique que j'écris ou que je fais, elle n'est pas tellement décadente et tout ça, puisque elle passe à la radio, elle est jouée en concert, donc elle est sur la ligne imposée par le parti. Comment le parti vous impose une ligne? Oh non, non, excusez-moi, j'ai voulu dire la ligne tracée par le parti. Ah non, non, camarade Cosma, vous n'êtes pas trompé, c'est ce que vous pensez réellement, et ça serait pas mal que vous alliez dans une fabrique ou dans une usine pour voir comment vit le peuple et ne pas être complètement dans un autre monde, etc. Alors, comme j'ai vu que j'avais fait cette gaffe, je me suis dit, bon, ben, je suis perdu maintenant. Quitte à faire, j'ai dit, bon, ben, écoutez, moi, j'ai rien contre aller dans des fabriques ou dans des usines pour voir les ouvriers. J'aime le peuple, au contraire, j'irai avec plaisir. Mes collègues qui étaient dans la salle et tout ça ont commencé à scander mon nom. Et voilà, on m'a pas foutu dehors du conservatoire le jour même, mais un mois plus tard, quand je suis arrivé au conservatoire, j'ai vu mon nom, que j'étais exmatriculé, on disait en roumanie, je sais pas comment on dit en français, exmatriculé.
Radié. Le père de Vladimir Cosma était chef d'orchestre. Dans les années 30, il avait vécu à Paris et il rêvait d'y retourner. Le départ de la famille est donc organisé sans que Vladimir soit prévenu parce que lui ne voulait pas quitter le pays. Et son père craignait qu'il parle. Mais en 1963, la famille Cosma arrive gare de Lyon et Vladimir a 23 ans.
C'était un choc parce que je me faisais une idée de Paris, centre de la culture, pays extraordinaire, Ravel, Debussy, La Fontaine, tout ça. Et quand je suis arrivé, il pleuvait, tout était noir, tout était sale. Et vraiment, j'ai très mal vécu. Je vivais dans un hôtel de réfugiés à Levallois. Mon père a fait un infarctus, etc. Enfin, c'était pas le rêve que j'imaginais. Et pendant 2-3 ans, je savais pas ce qui va se passer, si je vais arriver à quelque chose ou pas. Puis c'était aussi sur le plan culturel, j'étais très déçu. C'est-à-dire que moi, je rêvais du Paris, je vous ai parlé de Ravel, de Bussy, Poulenc, toute cette brochette de musiciens. En musique de variété, bon, on connaissait Léo Ferré, Jacques Brel, Michel Legrand, tout ça, c'était top. Et quand je suis arrivé, j'ai vu que bon, ben, ceux qui avaient du succès, c'était pas eux, c'était Claude François, Johnny Hallyday, Dalida et compagnie, quoi. Et quand j'ai commencé à faire des arrangements pour les maisons de disques, etc., on me donnait que des choses très très commerciales à faire. J'ai dû m'habituer avec ça.
Et c'est ainsi que Vladimir Cosma se retrouve arrangeur de variété. Son plus grand souvenir est avec Jeanne Moreau. Il écrit les arrangements et dirige l'orchestre, notamment pour cette chanson « Aimé ». Cosma et les musiciens sont là dès 9h, elle arrive à 16h, mais il est heureux.
Peut-être que le mien est un besoin d'amour qui ne peut tout à fait se fixer dans un corps et qui reste le chant que je jette vers vous, que je n'oserais pas si je manquais d'amour, si je manquais d'amour, si je manquais d'amour, si je manquais d'amour.
Quand vous arrivez à Paris, est-ce que vous imaginez faire des musiques de films ?
Non, j'imaginais pas du tout parce que je ne savais même pas qu'il existe un genre de musique de film. Je le savais très vaguement parce qu'en Roumanie, le cinéma occidental n'était pas montré. On ne voyait pas, on ne savait pas qu'il y a musique de film. Ça n'existait pas.
Comment vous vous êtes fait votre culture de ce point de vue-là ?
Quand j'ai commencé à travailler pour Legrand, parce que lui, il commençait à faire, il avait fait déjà les Parapluies de Cherbourg, on avait fait, j'ai collaboré sur les Demoiselles de Rochefort et tout ça, donc c'est à partir de ce moment-là. Et je me rappelle que je suis allé, pendant 2-3 mois, je passais mes après-midi dans des petits cinémas du Quartier Latin, où on donnait des vieux films, et on donnait parfois 5 films dans l'après-midi. Et j'allais à 2h et je sortais à 10h du soir, après avoir vu 4 ou 5 films. Pour la musique, j'allais les voir.
Ah, vous choisissiez les films en fonction des compositeurs ?
Ah oui, en fonction des musiques. Je ne suis jamais allé au cinéma pour voir un film. Je suis allé au cinéma pour entendre la musique.
1963. Vladimir Cosma est arrivé à Paris. Et au cinéma, il y a La Panthère Rose de Black Edwards avec une musique d'Henri Mancini.
Notes, on sait ce qui se passe. Mais c'est ce que j'ai essayé toujours de faire, vous voyez, vous faites ça. Bon, vous avez 7 notes, où vous faites ça. C'est un motif de Rabbi Jacob, en 4 notes, tout est dit. Si vous prenez la 5e de Beethoven, c'est encore plus court. sont très rares les compositeurs qui peuvent faire ça en peu de notes, faire la quintessence d'une idée ou d'une expression musicale.
1967. Vladimir Cosma est devenu l'assistant de Michel Legrand et il doit l'accompagner à Los Angeles pour un nouveau projet. Yves Robert, cinéaste au bout du fil. Il appelle Legrand pour écrire la musique d'Alexandre le Bienheureux avec Philippe Noiret dans le rôle-titre. Vladimir Cosma entend la conversation et dit à Michel Legrand « Je pourrais être disponible 3 mois avant de vous rejoindre en Amérique, Michel. » La musique d'Alexandre le Bienheureux, film d'Yves Robert, sorti sur les écrans en 1968, est donc la première bande originale signée Cosma. Vous êtes tout seul aux manettes. Comment vous essayez de vous distinguer ?
Mais écoutez, c'était mon grand problème quand j'ai quitté Michel Legrand, c'est qu'on ne dise pas que je fais du Michel Legrand ou que ça ressemble à Legrand, etc. Donc j'ai essayé, dans l'absolu, de m'éloigner de son système d'orchestration et de sa vision qu'il a. Et de ça, je suis arrivé sur une recherche timbrale, de timbre. Et je me suis dit, il faut, pour un film, avoir un thème et une couleur. Dans Alexandre, par exemple, le chien est personnifié par l'ocarina basse.
Dans ce film, le personnage d'Alexandre le Bienheureux décide de ne plus se lever pour le plaisir de rester au lit toute la journée. Au-dessus de lui, il y a tout un système de poulies pour avoir saucissons, bouteilles de vin ou pain à disposition. Et Alexandre envoie son chien au village avec un panier entre les dents pour faire des courses en cas de besoin.
Voilà, c'est le thème du chien dans Alexandre le Bienheureux. Bon, j'ai pas eu le courage d'aller jusqu'au bout de mon idée, c'est-à-dire de faire toute la musique du film avec l'ocarina basse, parce que si vous voulez un orchestre et tout ça, ça vous aide, c'est une facilité.
Pourquoi vous dites ça ?
Parce que ça habille, quoi. C'est comme une femme qui s'habille, quoi. Elle se met une robe, elle se met des lunettes, elle se met ce qu'elle peut pour devenir plus belle. Mais l'orchestration, ça habille une mélodie, ça nourrit quelque chose. Mais la vérité, c'est que, dans mon sens, une mélodie peut se suffire à elle-même, sans accompagnement, sans orchestre et sans rien.
Extrait d'Alexandre le Bienheureux avec Philippe Noiret. Extrait un jour, en plein champ, Alexandre s'adresse à son chien.
Bouge pas comme ça, tu me fatigues. Toi aussi, faut que tu remues, tu cavales. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous ? On a le temps.
France Inter.
Faut prendre son temps.
Pop & Co.
Faut prendre le temps de prendre son temps.
Rebecca Manzoni.
Ah oui, bonjour Rebecca.
Stéphane Lerouge au téléphone. Stéphane Lerouge est le concepteur de Écouter le cinéma chez Universal Music. Écouter le cinéma est une collection dédiée au répertoire des compositeurs de musique de film. Et aujourd'hui, dans Pop & Co, il est donc question de Vladimir Cosma.
Il vient d'ailleurs, il vient de ce qui est quand même un pays à l'époque du bloc soviétique, il vient de Roumanie. Ce que beaucoup de compositeurs français, notamment de la nouvelle vague, comme Michel Legrand, Georges Delerue, Maurice Jarre, vont vivre, c'est-à-dire en s'exilant à Hollywood, cet exil-là, Cosma va le vivre en passant de Bucarest à Paris. Et il y a cette rencontre magique, grâce à Michel Legrand, avec Yves Robert, et Cosma, très très vite, va mettre au point vraiment une idée qui est vraiment brillante, c'est-à-dire que, de son point de vue, ce qui doit être drôle dans un film, c'est le travail des auteurs, du metteur en scène, des comédiens, mais pas du compositeur. Que la musique, en général, dans un film, doit être une sorte un peu d'état supplémentaire. Et dans une comédie, on n'est pas là pour paraphraser ou stabilo-bosser les gags ou situations qui sont à l'image. On est là pour, musicalement, apporter une sorte de contrepoint de sentiment, de contrepoint poétique, en tout cas autre chose. Et cette démarche-là est vraiment assez neuve. Alors elle existe de façon, à l'époque dans le cinéma français, de façon un tout petit peu embryonnaire. Elle est chez Tati, bien sûr, avec ses différents compositeurs. Elle est un peu aussi chez Michel Legrand, notamment dans les films de Jean-Paul Rapneau, notamment La vie de château, qui est une comédie très importante en 65. Mais Cosma a vraiment réhabillé la comédie française et musicalement, je dirais même qu'il a vraiment décapé.
Mais alors avant, c'était comment ? La musique des comédies françaises était notamment écrite par Gérard Calvi, père d'Yves Calvi, qui a signé les bandes originales du Petit Baigneur ou ici de Branquignol, film de Robert Derry sorti en 1949.
Excusez-moi, monsieur, mais vraiment je ne l'ai pas fait exprès. Après.
Où on était dans une sorte un peu d'inspiration burlesque. Il y avait une influence d'un compositeur américain qui s'appelait Spike Jones, avec de la musique à effet, c'est-à-dire que les musiques étaient écrites pour des films drôles et les musiques devaient être drôles. La musique, parfois, épouse vraiment au millimètre près ce que l'on voit à l'image. Un personnage se casse la figure, vous avez une poire qui fait poète. J'aime beaucoup l'écriture de Gérard Calvi, mais l'approche et l'esthétique de Cosma a mis de la poussière sur Calvi. Et d'ailleurs, Gérard Calvi, à partir du début des années 70, quand Cosma s'envole, il va moins travailler, beaucoup moins. C'est-à-dire que son approche va paraître appartenir presque à une forme d'ancien monde de la comédie.
Mais alors, ça veut dire que, finalement, c'est un Roumain qui va écrire la bande-son des comédies françaises.
Ouais, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est un paradoxe d'avoir un Roumain qui va complètement inventer un son ou réinventer le son de la comédie française, et une fois de plus de façon totalement transversale, puisque la façon dont Pascal Thomas envisage la comédie n'est pas celle, mettons, de Jean-Marie Poiret ou de Claude Zidi. Et Cosma, pourtant, va être le fil rouge entre tous ces cinéastes.
1972.
Arrivée en provenance de Sydney, vol Air France numéro 704, porte numéro 17.
N'importe qui.
Yves Robert réalise le grand blond avec une chaussure noire.
Un homme dans la foule, le plus anonyme possible. Choisissez.
Bon, je me suis mis à chercher un thème.
Choisissez.
Et je ne trouvais pas le thème que je voulais.
Vladimir Cosma.
5 mois plus tard, alors que le film était fini et il était en train de monter le film, je rentre chez moi, à la maison, dans un taxi. Et dans le taxi, il y a pam 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 qui me viennent dans ma tête tout d'un coup. Je me dis, ça c'est le thème, voilà. Il faut que j'arrive chez moi, je me mets au piano et en 10 minutes, j'ai composé le thème, etc. Et j'appelle Yves Robert, je lui dis, Yves, viens tout de suite, j'ai trouvé le thème. Il dit, mais quel thème ? Ben, le thème du film. Mais on a le thème du film, on a déjà tourné, il est sur le film. Il dit, non, mais ce n'est pas le bon thème, j'ai trouvé un autre thème que je cherchais depuis 6 mois. Il était déçu, enfin il est venu avec la monteuse. J'ai dit oui, c'est pas mal, mais je préfère celui qu'on a déjà, etc. Alors je me suis accroché, je lui ai dit écoute, fais-moi le plaisir, laisse-moi enregistrer les 2 thèmes et puis tu choisiras celui qui te plaira, mais je suis convaincu que celui-là est beaucoup beaucoup meilleur.
Le Grand Blond, évidemment, l'originalité, c'est que c'est une comédie, mais c'est aussi un film d'espionnage. Mmh. Et vous, ce que vous proposez à ce moment-là, c'est une flûte de Pan et un cymbalum.
Bah ça a été un vrai combat et un drame terrible, parce que Quand j'ai reçu le scénario, il était indiqué sur l'arrivée de Pierre Richard à Orly, musique pastiche de James Bond, pour signifier le côté espion. Et moi, j'en avais en horreur de faire des pastiches ou des choses à la manière. Donc, mon but, c'était de trouver une idée originale pour personnifier ce personnage. Et puis, je me suis dit, finalement, l'espion n'est pas forcément James Bond ou quelqu'un d'anglo-saxon. Un espion peut venir du froid. Donc, il peut venir de pays que je connais très bien, d'Europe centrale, de Russie, de Roumanie. Un instrument que j'apporte là, la flûte de Pan m'est venue en tête parce qu'on l'a pas utilisé au cinéma, jamais la flûte de Pan d'Europe centrale, et cymbalum non plus. J'ai proposé ça à Yves Robert. Il m'a fait confiance parce que c'était déjà le troisième film qu'on faisait ensemble.
Et alors, le fait d'amener comme ça la flûte de Pan et le cymbalum, avec en plus un orchestre, finalement, là, on est en 1972, il y a un côté world music là-dedans.
Oui, ça n'existait pas, la world music. D'ailleurs, la musique m'a été refusée par mes producteurs chez CBS parce qu'ils trouvaient qu'il n'y a pas de genre pour la musique que j'ai faite. Ils me disent, c'est pas du jazz, c'est pas de la musique classique, c'est pas de la variété, c'est musique... Bon, ils n'ont pas voulu sortir le disque. C'est la raison pour laquelle le disque est sorti dans une petite maison de disques au départ qui était les disques DS. Parce que eux, ils ont accepté de le faire. Mais des années plus tard, c'est devenu ce qu'on a appelé la world music.
Vladimir Cosma va écrire la musique de la suite du Grand Blond qui s'intitule « Le retour du Grand Blond » d'Yves Robert, toujours. Et parmi les morceaux de ce film, il y a celui-ci auquel il a donné un nom roumain. C'est Florea Soar et Louis. Ça veut dire les tournesols. Stéphane Le Rouge.
Ça, c'est un thème profond. Un jour, Cosma, en l'écoutant, m'avait dit ça. C'est vraiment pour moi la nostalgie de ma jeunesse roumaine. Quoi. Il y a dans ces thèmes une sorte de nostalgie qui est celle de l'exil et qui est celle du déracinement. Il y a vraiment ça chez Cosma, ce sens vraiment de cette mélancolie souriante, de ce mot que Dabadi a breveté, qui est un magnifique néologisme, une inspiration mélancomique. Ça, c'est vraiment la marque de fabrique de Cosma.
On demande Monsieur Malaquais.
Chez Monsieur Guiton.
Merci, madame, merci.
Monsieur Malaquais se prénomme Pierre, comme son interprète, Pierre Richard.
On demande Monsieur Malaquais chez Monsieur Guiton.
Malaquais est le nom du personnage que Pierre Richard a inventé pour Le Distrait, premier film qu'il a réalisé.
Voilà, l'homme qui ne vend pas est un malade, un pervers aux yeux de celui qui achète. Non, c'est le contraire, c'est l'homme qui n'achète pas qui est un malade, qui est un pervers aux yeux de celui qui ment, qui vend. Pas qui ment, qui vend. C'est la même chose d'ailleurs. Enfin, c'est pas la même chose que le contraire, mais ça n'a aucun rapport.
Et c'est Vladimir Cosma qui signe la BO du Distrait.
Dans Le Distrait, film que j'ai fait avec Pierre Richard, c'est une couleur très spécifique. Avec un petit saxophone sopranino, qui est un tout petit saxophone qui est utilisé souvent par les clowns dans les cirques. Le thème et toute la musique est basée sur cet instrument.
Est-ce que le comédien influence la façon d'écrire la musique ?
Ah oui. En ce qui me concerne, je suis extrêmement sensible à l'acteur, même plus qu'au sujet ou autre chose. Pour moi, quand j'écris pour Pierre Richard ou pour De Funès, c'est pas du tout de la même façon et le même esprit. Bon, si c'est Pierre Richard, je le vois autrement, d'une manière plus relaxe, un peu accompagné d'une musique un peu jazzy, comme une comédie musicale. Tandis que si c'est Pour De Funès, c'est une musique plus rock, plus rentre dedans. Ouais, parce que pour moi, De Funès a moins de souplesse dans ses gestes, moins de... Donc c'est très important, le jeu des acteurs. Et les acteurs, pour moi, c'est l'essentiel dans le cinéma.
Et la voix de Jean Rochefort passe à nouveau dans Pop & Co.
6 semaines plus tôt, je n'étais qu'un homme sans aventure, calmement épris de sa famille et de sa patrie, et dont le regard ne faisait aucune embardée au passage des femmes.
1976. Un éléphant, ça trompe énormément, d'Yves Robert. Les dialogues sont de Jean-Loup Dabadie, qui résumait le film comme ceci. Chronique très agitée des démêlés de certains hommes avec certaines femmes qui ne sont pas nécessairement les leurs.
Charlotte et moi cultivions le mystère de Charlotte. Elle parlait peu d'elle. Je n'osais profaner ses silences. Mieux encore, pour qu'elle ne se doute pas une seconde de l'obscénité de mes intentions, je me gardais pendant quelque temps de lui proposer le moindre rendez-vous à la nuit tombée. Nous nous quittions sans nous laisser d'adresse. Elle, tout essoufflée de plaisir, moi, le visage tuméfié par le désir.
Il y a deux musiques dans ce film, en fait. Celle de la voix off d'Étienne Dorsay, interprétée par Rochefort et écrite par Dabadie, et la partition de Vladimir Cosma.
Dans Un éléphant, ça trompe énormément. Il fallait une musique qui fait penser à la femme rêvée, quoi. Ce dont Rochefort rêvait comme idéal féminin, je pensais en fait, ce qu'il pense, lui, c'est le bonheur. Une femme, qui est le bonheur, c'est une île au Pacifique, au milieu de la mer. Tout d'un coup, il voit cette femme et il a cette image d'île, de mer, de bonheur. Et donc j'imaginais une musique qui soit comme une espèce de petit mini concerto de piano, mais accompagnée par le bruit des vagues et des oiseaux qui répondent. Les techniciens du film, ils ont dit, mais qu'est-ce que c'est que cette musique? On dirait qu'on tire une chasse d'eau quand on entend les bruits de vagues. On entendait ça, on voyait pas de mer, on était dans un parking. On dirait que c'est la chasse d'eau du water du parking. Il me dit, mais tu sais, on peut mixer la musique sans les bruits de vagues et sans les oiseaux. J'ai dit oui, mais enfin, on enlève toute l'originalité. Et il y avait une projection qu'ils avaient dans 3 jours. Dès que ça c'est parti, la musique avec la chasse d'eau et
avec la chasse d'eau, avec les bruits de vagues.
Avec les bruits de vagues, avec les bruits de vagues et les bruits de mouettes, il y a eu un éclat de rire immédiatement. C'est-à-dire que les gens ont immédiatement compris et apprécié.
27 février 1982.
Eh bien, c'est l'heure de vérité.
7e oui. Cérémonie des Césars.
Le gagnant est... Non, oh, mais c'est mérité, remarquez. Ah, alors oui. Donc, c'est...
Vladimir Cosma pour Dima.
Vladimir Cosma a déjà obtenu des nominations au César pour L'Animal, pour La Dérobade. C'est son premier César, mais c'est le 3e César ce soir pour le film Diva de Jean-Jacques Benex.
Et ce soir-là, c'est Benex qui représente Cosma.
Vladimir Cosma, qui est sans doute voulait faire de l'exorcisme,
et qui est très timide, n'a pas osé venir ce soir.
Oh, il aurait dit, c'est bête.
Voilà.
Pour Diva, Vladimir Cosma adapte l'air de la Wally du compositeur italien Alfredo Catalani. Benex voulait un air d'opéra dans l'univers des Italiens véristes. Et comme Cosma n'aime pas écrire des pastiches, il a déniché cette œuvre-là aussi parce qu'elle avait des airs d'inédits. Catalani, compositeur italien de la deuxième moitié du XIXe siècle, était quasi inconnu à l'époque, ou en tout cas tombé dans l'oubli. L'air de la Wally de Catalani a fini par devenir célèbre grâce à l'adaptation qu'en a faite Vladimir Cosma avec la voix de la cantatrice américaine Wilhelmina Fernandez. Cosma a aussi adapté cet air pour piano seul. Il a donc fait venir un pianiste en studio pour enregistrer, mais Benex n'était pas convaincu. Cosma a donc sollicité un deuxième pianiste, mais Benex a encore dit non. Avant de suggérer, ce serait peut-être mieux si c'était toi qui jouais, non ? Réponse.
Il dit non, écoute, moi je ne suis pas pianiste, je n'ai pas la technique pour faire ça, et je peux jouer autre chose, peut-être quelque chose de plus facile pour moi. Bon, je suis allé en studio et j'ai commencé à essayer de trouver un thème à improviser. Et à un moment donné, c'est formidable. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ben, j'ai dit, c'est un thème que je viens d'improviser, là. C'est comme ça que j'ai joué le thème qui est devenu la promenade sentimentale et qui est resté dans le film.
Donc là, le fait que vous ne soyez pas pianiste de formation et le fait que vous n'ayez pas la technique, ça vous a servi ?
Ben oui, oui. Mais vous savez, le fait que je ne suis pas pianiste de profession et que je suis violoniste m'a servi peut-être dans ma vision de la musique. Le fait que j'ai une vision plus mélodique de la musique qu'un pianiste qui voit les accords, qui joue beaucoup de notes, etc. Moi, avec le violon, on joue une seule voix. C'est ça qui est essentiel.
Stéphane Le Rouge.
Et donc là, on découvre vraiment un autre Cosma. Il y a quelque chose de grand dans Diva et quelque chose aussi de terriblement frustrant. On pense qu'on est au début d'une grande collaboration, bien finalement non. Il y a quelque chose qui naît, mais qui restera une sorte d'aventure un peu fugace et sans lendemain. Et en même temps, ce sont aussi des choix de carrière et de parcours assez insolites, c'est-à-dire que avec le recul, on peut se dire que Cosma a cette chance d'être réactivé par Benex, et Benex révèle vraiment un autre visage de Cosma. Et à partir de ce moment-là, on peut se dire, Cosma a 40 ans, il a une sorte de confort qui peut lui permettre désormais de refuser des films. Il n'est plus comme à ses débuts, parce qu'une carrière se dit en acceptant des projets, mais se construit aussi en refusant d'autres projets. Et après Diva, qu'il mette en musique pour Marcel Dassault, Jamais avant le mariage, où tout le monde peut se tromper, Retenez-moi où je fais un malheur, Corps à corps, vous dites, mais pourquoi ? C'est assez énigmatique de voir quelqu'un avec qui parfois a accepté des projets qui ne sont pas du tout à l'altitude de son talent et de son écriture.
La musique de Vladimir Cosma a traversé 40 ans d'histoire de comédie française. Celle signée par Yves Robert, Claude Zidi, Gérard Houry, et puis l'arrivée d'une nouvelle génération à la fin des années 70 avec la bande du Splendide. La BO du Père Noël est une ordure, c'est aussi Cosma. Et puis La Chèvre, Les Compères, Les Fugitifs de Francis Weber dans les années 80. Et puis...
On ne s'attendait pas du tout à ça.
1993.
Le contrôle de cette soirée nous a complètement échappé.
Cuisine et dépendance sort sur les écrans. Le film est réalisé par Philippe Muil, adapté d'une pièce de théâtre d'Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri qui font aussi partie du casting.
Donc, si j'ai bien compris, vous me laissez tout seul en plan là-bas avec eux ?
Oui, et ben on est tous dans une situation délicate. La vie est une situation délicate.
Ah !
Cosma est quelqu'un qui a toujours aimé aller chercher, faire recours à des folklores, mais en contrepoint. Un jour, il m'avait dit, mais finalement, mettre de la mandoline sur des images de Venise, mais c'est le comble de la convention, quoi. C'est le degré zéro de la musique au cinéma. Et lui, quand il fait appel à des folklores, c'est parce qu'il y a un rapport sous-jacent entre la situation à l'image et le folklore en question. Et dans Cuisine et dépendance, il s'est dit qu'il y avait une violence dans les rapports entre les différents personnages et que cette violence-là lui évoquait de façon sous-jacente la violence rythmique du flamenco. Or, le film ne se passe pas en Espagne, il n'y a aucun personnage espagnol à l'image, mais simplement il y avait une correspondance secrète entre les rapports, entre les relations entre ces personnages-là et le flamenco. Et je trouve que ça apporte quelque chose vraiment qui fouette l'image. C'est une musique de tension sur une autre forme de tension qui est à l'image. Et ça marche formidablement.
Vous êtes gay, vous êtes content. Bon, ben c'est très bien, vous faites ce que vous voulez, mais laissez-moi tranquille. J'ai pas gagné au loto, j'ai rien à vendre à personne. Bon, j'ai aucune raison d'être particulièrement gay. Hein, je suis un être humain, je suis pas un animateur. Y a qu'à la télévision qu'on voit des gens éclater de rire à longueur de temps, là, comme des crétins.
Eh ben, c'est un exercice bien pénible pour moi parce que c'est une improvisation d'abord, alors que je passe des heures à écrire et que je me reprends.
Qui va là ?
Et puis il faut que je dise ce qui me passe par la tête.
Francis Weber, co-scénariste du Grand Blond, avec une chaussure noire, et réalisateur entre autres du Jouet, de La Chèvre ou du Dîner de cons, films tous mis en musique par Cosma. Ce jour-là, 10 octobre 2010, Francis Weber participe à l'émission Éclectique et enregistre une minute de solitude, c'est-à-dire qu'il est tout seul au micro pour une minute d'impro.
Et ce qui me passe par la tête, c'est que j'ai envie d'être heureux. Voilà, ça sort comme ça. Et c'est un des souhaits les plus bêtes qui soit, parce que j'ai un copain qui s'appelle Vladimir Cosma et qui est mon musicien, qui est arrivé de l'enfer de l'Est. Hein, il était roumain. Et qui m'a dit, vous autres, vous voulez un bonheur continu. Et le bonheur, c'est un pointillé. Voilà, merci de m'avoir écouté.
Les musiques de Vladimir Cosma ont été éditées en coffret CD avec des livrets copieux qui reviennent précisément sur chacune des compositions. Le quatrième coffret, intitulé Les Introuvables, paraîtra en mars chez Larghetto. Il y a aussi le livre Vladimir Cosma, comme au cinéma, un recueil d'entretiens mené par Vincent Perrault et publié chez Hors Collection.
France Inter. Rebecca Manzoni. Pop & Co.
Je connais rien du tout, quoi.
C'est ce qu'il a dit en parcourant la liste des chansons diffusées en ce moment sur France Inter. Il s'appelle Manuel Lenné et il écrit les musiques du groupe Cannibal.
Ah si, ça c'est bien ça.
Lui, c'est Nicolas Camus, auteur et chanteur du groupe Cannibal, dont on va explorer un morceau dans quelques minutes. Mais là, ils choisissent le prochain disque de Pop & Co. Reprenons.
Ah si, ça c'est bien ça. Wet Leg. C'est super. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait, mais bon, c'est pas grave. Alors ouais, déjà, c'est les filles, Girl Power. Je sais même pas si elles sont 3 ou 4, j'en sais rien. C'est pop rock, de base, basse batterie. C'est simple, ça va droit au but, quoi. Ça, sans chichi. Ouais.
En fait, elles sont deux Anglaises venues de l'île de Wight qui ont choisi Wet Leg pour nom et Wet Dream pour le titre de cette chanson. Rêve mouillé, donc. Leur premier album est prévu pour le printemps.
Here we go. I was in your wet dream, darling.
Après les deux Anglaises de Wet Leg, les deux Français du groupe Cannibal dans Pop & Co, Manuel Lenné et Nicolas Camus, qui voient leur nom parmi les artistes de la playlist de France Inter.
On est dans Playlist Internationale.
Ben, on chante en espagnol, mec.
C'est vrai. Es el amor, c'est l'amour, titre de la chanson de Cannibal dont on soulève le capot dans Pop & Co. Pourtant, les membres du groupe n'ont aucune origine espagnole. Ils sont aiglons, c'est-à-dire habitants de la ville de L'Aigle, dans l'Orne. C'est là qu'ont été conçus tous les albums de Cannibal par Nicolas Camus, au texte et au chant, Emmanuel Lenné, à la composition et à tous les instruments.
J'ai enregistré la chanson dans mon salon, à la maison. Et c'est à côté du canapé, même il y a une cuisine aussi dans cette salle. Des fois, on entend la cocotte minute, quoi, qui est en train de cuire la soupe. Ça fait pas un son de studio, quoi.
Donc, c'est-à-dire
ça fait un son un peu cassé, un peu cabossé.
On entend, comme dit Manu, on entend le côté bancal de la chanson, et c'est ce qui lui donne son charme, en fait. Et d'ailleurs, tous les morceaux de Cannibal et toute la façon de faire, en fait, de créer la musique, c'est-à-dire que c'est bancal, et cette bancalité, si on peut dire ça, elle est bancalitude, elle est vivante, c'est ce qui permet de faire quelque chose, je pense, par rapport à ce que disait Manu, de différent, par rapport à cette ambiance, en tout cas, lisse, qu'on peut entendre aujourd'hui dans beaucoup de chansons, même si c'est difficile de faire des généralités, mais souvent, c'est pour, cacher les défauts. Et en fait, les défauts, ils sont tellement beaux et c'est tellement humain que c'était... Que de les faire exister et puis de dire ben voilà, ouais, on entend la cocotte minute, on entend le chien qui aboie, on entend les... Et ça fait partie de la musique et, entre guillemets, de l'exotisme, en fait, de Cannibal.
La musique de Cannibal, c'est l'histoire de deux garçons qui ont autant écouté les Doors que Gainsbourg, que NTM, que de la musique malienne. La suite avec Nicolas Camus.
De découvrir ces choses-là, dans un village dans les années 90, un village de 10 000 habitants, et ça nous a ouvert un monde, de quoi rêver, quoi. Et pas avoir un destin tout tracé, comme tous les gars et les filles avec qui on était au collège, qui allaient faire un CAP machin, ou faire de la musique. Pour nous, c'était évident, puis c'était notre mouvement de liberté, rêver à autre chose que ce qui nous était prédestiné, on va dire.
Es el amor de Cannibal dans Pop & Co.
Énervant. Hein. J'ai commencé par ça, en fait. C'est le premier truc qui m'est venu. C'est sûr que c'est pas...
Moi, je trouve que ça me fait penser à un truc d'Afrique de l'Ouest.
Ouais, carrément.
Ça vient d'un salon de L'Aigle dans l'Orne.
Ouais, mais il y a des disques de... Il y a du Toumani, Diabaté, les Farka Touré. si j'avais pas écouté en fait la musique de d'Amérique du Sud, donc la cumbia ou la musique des Antilles ou la musique de la Réunion ou la musique d'Angola, Turquie, de tout, je crois que je me serais vraiment lassé de du son
occidental.
Occidental, un truc sous arrive un moment, t'as 25 ans, puis tu dis ouais, tout est nul, j'arrive plus. Mais d'avoir des cadences, des rythmes différents, ça fait un bien fou.
Ça, c'est pas une cadence d'ailleurs. C'est l'un des sons de boîte à rythme qu'on obtient en appuyant sur le bouton d'un orgue de salon, utilisé aussi dans les baloches.
Ça envoie comme un toupette, toupette,
toupette, toupette, toupette. Moteur de tracteur, quoi.
Il ouais,
hein, y a un petit côté Massey Ferguson de l'aigle.
Les choses sont démodées, c'est sûr, mais moi ça me séduit, j'adore quoi.
On a quelque chose en commun qui est très important, c'est que les morceaux nous fassent rire. En fait, il y a dans la musique de Cannibal, quand on écoute bien, toujours quelque chose d'un peu, comment dire, une espèce de crétinerie qui nous fait marrer en fait. La musique du Cannibal, c'est de la cuisine quoi, c'est puis si on rajoute des tomates là, tiens, on va mettre une pastèque dedans pour voir ce que ça fait, et puis c'est bizarre mais c'est pas mal.
Fish Cuisine de SL Amor, chanson de Cannibal dont on suit les pistes dans Pop & Co. Une guitare inspirée d'Afrique de l'Ouest, une pulsation façon tracteur Massey Ferguson, Esclavessie entre autres.
Ce qui me fait kiffer par-dessus tout, c'est ce côté... on revient au truc crétin. Allez, on revient. Et on y retourne. On n'est pas loin du gimmick du juste prix, quoi. Il y a un petit truc, jeu télévisé, quoi, un peu... On danse, mais on ne sait pas trop danser, on est un petit peu... Et ça c'est juste une perle.
Quand soudain...
On rentre dans la salle de sport, on a des cuissards rose fluo, et puis on fait comment ça s'appelle, du step, quoi. Là, faut suer, quoi. Et la seule monnaie qu'on acceptera ici, c'est la sueur.
Alors, je crois que dans votre façon de procéder, c'est Manu qui compose la musique, mm-hmm. Il vous l'envoie, mm-hmm. Et vous écrivez le texte. Mm-hmm. À l'écoute de la musique de SL Amor, vous vous êtes fait quel film ?
Quelque chose de disque, enfin, c'est disco, mais disco, comme on a pu, qu'on pouvait aller en boîte de nuit à l'époque où. Les mecs qui mettaient leurs pulls torsadés dans les jeans, de mecs qui roulaient en un R21 à fond dans les rues, de l'aigle, le pare-brise un peu fumé, et puis le béquet arrière sur la voiture, et qui nous fait vraiment marrer, quoi.
Ça correspondrait à quelle chanson, ça ? Est-ce que vous auriez un titre précis en tête ?
Moi, j'en ai un en tête direct, c'est Tropique au compteur de Muriel Dac.
Change pas le moteur ?
Ouais. Ouais, et puis il y a un bon passage.
Tropique au compteur, donc, de Muriel Dac, tube de l'année 1985, l'un des morceaux qui ont inspiré le SL Amor du groupe Cannibal.
Il y a un bon passage là, où il chante en italien, je crois que c'est en espagnol, moi. Mais en fait, c'est en italien. Mamma mia, ballanina, discoteca. Alors, je sais pas si c'est ce qui m'a fait écrire en espagnol. Mais je me suis dit, mais ça va super bien coller, l'espagnol, c'est évident, il y a un truc, ce côté un peu, salut poupée, mais qui est ringard à souhait, qui est ridicule en fait, quoi.
Inspirar y expirar es el amor, es el amor.
Ça parle d'amour et de sport, en fait. Donc c'est un gars qui est très très amoureux et qui, pour rejoindre sa chérie pendant le confinement, et il décide d'y aller en vélo. Et il a des centaines de kilomètres à parcourir. Et en fait, on croit qu'il pleure au début, mais en fait, c'est les larmes qui coulent parce qu'en fait, il va très très vite en vélo, quoi.
On a fait des groupes tous les deux depuis qu'on a 14 ans.
Vous avez quel âge ?
La quarantaine. Moi, j'ai 43 ans. On est un peu usé, comme notre musique, elle est un peu usée, comme un jouet usé, mais qui a déjà servi, mais qui marche encore. Ouais, c'est important, l'âge, je pense. C'est aussi changer d'ambition. Moi, je me rends compte qu'aujourd'hui, je veux juste faire de la musique, en fait. Alors qu'à 16 ans, je voulais être comme Slash, je voulais être...
La gloire.
Ouais, ouais, la gloire. C'est plus le cas. Maintenant, je passe mes journées à faire de la musique et je m'en fous. J'ai plus besoin d'être Slash aujourd'hui, je veux juste faire de la musique et ça me suffirait presque.
Life is Dead, c'est le titre du nouvel album de Cannibal paru sur le label Born Bad. Le groupe sera en concert à Saint-Hilaire le 19 février, au Café de la Danse à Paris le 3 mars ou encore à Annecy le 4 mars aussi. Vous trouverez d'autres dates sur le site de Pop & Co. Koyan Guyan a réalisé cette émission avec Florian Doremini ce matin, Ilinka Negulesco prépare Pop & Co et Jean-Baptiste Audibert aiguille la programmation musicale. La semaine prochaine, Pop & Co sera Pop & Catherine, Philippe Catherine. Ensuite, il y aura Pop & Sinatra, puis Pop & Björk, etc., etc. À samedi!